Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service des Séjours. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission pour vous servir. Système LMD en République démocratique du Congo, quelles sont les forces et les faiblesses? Professeur Michel Bissa Kiboul, membre de l'équipe de coordination des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire de 2021 à Lubumbashi, est notre invité. Professeur, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Bien, on vous retrouve dans quelques instants pour faire une sorte d'évaluation du système LMD. C'est depuis le mois d'août que le gouvernement a lancé l'évaluation de ce système LMD. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à ce système LMD en République démocratique du Congo. Appelez au 099 706 9941 pour vous exprimer dans cette émission de la vie au quotidien. Alain Goy est à la mise en onde, Tati Mapoukou coordonne et réalise cette émission. À la présentation, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Okapi.
Bien, en République démocratique du Congo, le système LMD, licence master doctorat, est appliqué dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de notre pays depuis 3 ans. Alors, ce système vise à rendre notre enseignement supérieur compatible aux normes et standards académiques et scientifiques internationaux et compétitifs à l'échelle internationale. Alors aujourd'hui, il est opportun de faire l'évaluation, d'en évaluer les résultats, de mettre en évidence les forces et les faiblesses, les opportunités, ainsi que les menaces. Alors, quelle évaluation pouvons-nous faire aujourd'hui du système LMD? Quelles sont les forces et les faiblesses? Eh bien, appelez pour participer à cette émission, appelez pour donner votre évaluation au 099 706 99 41. Professeur Michel Bissa Kiboul, membre de l'équipe de coordination des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire de 2021 à Lubumbashi, est notre invité. Professeur, encore une fois, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette émission.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bien, quelle évaluation on peut déjà d'emblée faire du système LMD 3 ans après?
Merci beaucoup. Je pense que avant de pouvoir entrer dans l'évaluation, il faut parler peut-être de la trajectoire de ce système. Il faut noter que en 2014, on s'est rendu compte que notre système éducatif présente.
Allô, professeur. Allô. Voilà, il y a quelques soucis.
Oui, allô, moi je vous capte très très bien.
D'accord, mais oui, je vous capte aussi maintenant. Maintenant ça va, allez-y.
Oui, je disais qu'avant l'évaluation, on peut faire la trajectoire du LMD. Il faut noter que le LMD a été adopté depuis 2014 dans la loi cadre de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais de 2014 jusqu'en 2021, le LMD n'a pas été appliqué. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de quitter le PADEM pour le LMD? C'est parce qu'on avait un certain nombre de contraintes, parmi lesquelles d'abord est l'acceptabilité de nos diplômes au niveau international. La nomenclature elle-même posait problème parce que quand on parle de licence dans beaucoup de pays au monde, c'était un diplôme de bac plus 3. Mais chez nous, c'était bac plus 5. Conséquence, dans beaucoup de pays, les licenciés 5 ans de chez nous, quand ils allaient là, pratiquement, ils reprenaient des formations. Ensuite, il y avait aussi trop de théorisation en lieu et place de pratique. Et donc, il fallait aller dans une formation qui va conduire les apprenants à beaucoup plus de pratique. Mais ça n'a pas été opérationnalisé parce que le LMD avait un certain nombre d'exigences. Et on a estimé qu'entre 2014 et 2021, il y avait beaucoup d'éléments qu'il fallait refaire. C'est comme ça qu'en 2014, en 2021, nous allons nous retrouver à Lubumbashi après une longue procédure d'évaluation et de recherche intégrant plus de 26 000 personnes dans les enquêtes pour aller faire ce qu'on a appelé les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, conduite à l'époque par le professeur Antoine Chimpi, un des Congolais qui venait de la diaspora. Il se fait que les États généraux de l'ESU ont formulé plus de 229 résolutions et ces résolutions ont été adoptées au Conseil des ministres. Ces résolutions ne concernaient pas que le LMD, mais ces résolutions concernaient la réforme de l'ensemble du système éducatif congolais. Malheureusement, il se fait qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à ne voir que le LMD au lieu de voir l'ensemble de la réforme. Dans cette réforme, il fallait l'équipement de l'enseignement, la valorisation des personnels, la rémunération, les bourses des étudiants. Donc, c'est tout un paquet d'éléments qui devraient avancer et le LMD n'était qu'un de ces aspects-là. Alors, dans ce cadre-là, on avait également mis en place un mécanisme national de suivi et évaluation des résolutions. Et la personne qui vous parle ici, je suis le secrétaire général du mécanisme national de suivi et évaluation des résolutions des États généraux de l'ESU. En principe, les résolutions elles-mêmes avaient prévu que 2 ans et demi après, on devrait faire l'évaluation. C'est comme ça qu'au mois d'août dernier, le chef de l'État, en conseil des ministres, va instruire la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur de pouvoir procéder à l'évaluation du LMD.
Oui.
Mais maintenant, quels sont les problèmes avec cette évaluation? Le premier problème d'abord noté, monsieur le journaliste, c'est que l'organisme institué pour pouvoir faire le suivi évaluation, c'est-à-dire le contrôle ingoing, chemin faisant, n'est pas pris en compte dans cette évaluation. Nous n'avons jamais été saisis, nous n'avons jamais été informés, pourtant il n'y a aucun arrêté qui nous a remplacés jusqu'à ce jour.
Oui, la commission en question est composée de qui, professeur?
Dans cette commission, il y a un certain nombre de personnalités de haut calibre. Vous avez le professeur Antoine Chimpi, l'ancien coordonnateur des États généraux, c'est lui qui en est le coordonnateur. Vous avez quelqu'un comme le professeur Abel Léonard Santédi, recteur de l'ICC, il est membre de ce mécanisme de suivi et évaluation. Vous avez Madame Bernadette Moussao, qui est au conseil d'administration des ISP, et moi j'en suis le secrétaire général, il y a des professeurs médecins, bienvenue les Boisés, nous sommes nombreux. Mais tous ces groupes de gens qui ont accompagné les résolutions, qui avaient la mission de les évaluer, de dire voici ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, nous n'avons pas été associés jusqu'à aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'évaluation mi-parcours. Mais maintenant, au niveau du travail que nous avons fait, l'État congolais veut évaluer une réforme à laquelle il n'a pas mis les moyens. C'est ça tout le grand problème. La réforme de Lubumbashi, c'est une des meilleures réformes que ce pays ait entrepris. Et je vous assure que l'histoire montrera que le ministre Moïndo Zangi avait tout à fait raison. Mais maintenant, le problème était qu'il fallait y mettre les moyens, les ressources nécessaires pour opérationnaliser les LMD et opérationnaliser l'ensemble de la réforme.
Oui, professeur
de
Michel.
2021,
professeur Michel, oui? on reçoit beaucoup des réactions des personnes qui disent, par exemple, que le système LMD n'est pas adapté à notre système. Il y a beaucoup de couacs dans les universités et l'adaptation pose problème. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout cela?
Beaucoup de ces gens-là sont des gens qui n'ont pas lu les résolutions des États généraux de l'ESU. D'abord, il faut noter que à Lubumbashi, nous n'avions pas adopté le LMD.
Allô? Allô, professeur?
Oui, allô, je suis là, je vous écoute très bien.
Oui, allez-y.
Je disais qu'à Lubumbashi, nous n'avions pas adopté comme tel le LMD de Bologne. À Lubumbashi, nous avions créé un système congolisé. Ce n'est pas le LMD tel que adopté à Bologne, mais c'est un système de l'éducation qui devrait tenir compte de nos réalités. C'est un LMD qui pouvait fonctionner aussi dans des milieux où il n'y avait pas, par exemple, l'énergie électrique, où la couverture de l'internet net n'était pas totale, où on savait très bien qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui exigeaient une formation dans la nature. Donc, le système de Lubumbashi n'a jamais été appliqué. C'est ça le véritable problème. Le problème n'est pas d'être adapté ou non, parce que le système qu'on a créé est un système original, est un système congolisé, et celui qui veut comprendre le LMD de la RDC, il n'a qu'à lire les résolutions des États généraux de l'ESU. Il ne faut pas aller lire l'acte fondateur de Bologne. Non. C'est ça le problème avec ceux qui disent que ce n'est pas adapté. Mais le problème est que l'État n'y a pas mis les moyens. On n'a pas formé les enseignants à enseigner autrement. On n'a pas formé les étudiants à apprendre autrement. On n'a pas mis en place les moyens nécessaires, matériels, financiers, humains et techniques pour accompagner l'opérationnalisation de la réforme.
Voilà, on dit par exemple que dans les systèmes LMD, c'est un système qui facilite la mobilité étudiante. Est-ce que dans notre pays, on assiste déjà à ce genre de choses?
Voilà, en fait, le LMD tel qu'on l'a opérationnalisé devrait faciliter la mobilité, mais aussi beaucoup de pratiques, c'est-à-dire énormément de stages dans les entreprises. Et cela voudrait dire quoi? Il ne fallait plus que l'étudiant lui-même vienne vous dire qu'il va faire les stages dans telle ou telle structure parce que son oncle ou sa tante travaille là-bas. Il fallait que les universités aient des contrats avec les entreprises, que les entreprises signent des actes de responsabilité éducative pour accompagner la formation. Mais tout ça, ça n'a pas été mis en place parce que l'État n'a pas accompagné la réforme. Et aujourd'hui, les gens se limitent à parler du LMD, alors qu'il faut parler de manière globale de l'ensemble de la réforme. Tant qu'il n'y aura pas les moyens nécessaires, tant qu'il n'y aura pas une éducation nécessaire, quelle que soit la réforme qu'on mettra en place, elle ne marchera pas. C'est ça le problème.
Voilà. Mais donc, par rapport au système de crédit, on peut dire que cela est déjà d'application et qu'un étudiant peut quitter ici, aller ailleurs avec le même crédit, etc. Et il sera considéré.
Pas totalement. On ne peut pas aussi affirmer ça parce que tel qu'appliqué aujourd'hui au Congo, nous avons plusieurs LMD, malheureusement. Si vous allez, par exemple, à l'Université catholique du Congo, vous allez trouver qu'il y a un système de semestrialisation et des crédits, mais également on a encore des entraînés, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait 10 sur 20 est encore obligé de revenir. Mais quand vous arrivez même à l'université de Kinshasa, vous trouvez que les grilles de délibération ne se présentent pas de manière uniforme. Nous avons faculté par faculté avec son modèle. En tout cas, c'est du méli-mélo, c'est un désordre inutile parce que l'État n'a pas fini la construction du système. Tenez, monsieur le journaliste, on devrait, par exemple, pour le contenu des enseignements, donner un contenu minimum pour chaque enseignement. Le ministre Moïse avait créé une commission qu'on appelait Task Force Curriculaire. Nous étions là, nous étions limités à donner les intitulés des matières pour chaque filière. Mais on n'a pas donné le contenu minimum de chaque cours. Conséquence, quand moi je donne le cours de géographie politique à l'université de Kinshasa, j'arrive à Lubumbashi, je trouve que mon collègue qui a donné le même cours, ce n'est pas le même contenu. Avec quelles conséquences? À Kinshasa, nous formons un politologue selon le professeur de là-bas. On arrive à Lubumbashi, c'est un autre cursus. On arrive ailleurs, ça devient très compliqué parce que l'unité de l'éducation.
Allô, professeur? Allô?
Oui, allô.
Oui, vous disiez, vous allez.
Oh là là.
Oui, on vous écoute, professeur, allez-y.
Je disais que quand, par exemple, je vais à Lubumbashi, je trouve que le contenu que mon collègue de l'INILU enseigne pour mon cours de géographie politique à l'INIKIN, n'est pas la même chose que mon contenu ici. Je compare avec celui de Bukavu, de Goma, de Mbandaka. Vous trouvez qu'il y a 5 contenus différents. Ça vient d'où? Ça vient parce que l'État congolais n'a pas fini de donner le contenu minimum des matières. Vous vous imaginez un étudiant qui fait la pédiatrie et qui doit avoir, par exemple, un cours de chirurgie pédiatrique à Lubumbashi, à Kinshasa, qui est différent de celui de Lubumbashi. Quel type de médecine nous allons créer demain? La responsabilité majeure est que l'État devrait finir la construction de la réforme. Et cette construction doit se faire dans la continuité et non pas avec des ruptures. Ce n'est pas que lorsqu'on change un ministre, le nouveau ministre qui arrive pense qu'il doit repartir à zéro. Alors que ça fait déjà 3 ans qu'on est dans cet élément et la réforme risque d'aboutir vraiment à un chaos et c'est dommage pour l'éducation de nos enfants, mais aussi pour le milieu professionnel dans notre pays.
Bien, donc on peut dire que confirmer ce que certains pensent, que ce système a été appliqué dans la précipitation sans une bonne préparation.
Le système, je ne parle pas de la précipitation, pourquoi? Parce que les résolutions des États généraux avaient prévu même un cheminement d'application où on disait de telle année à telle année, nous serons en train de faire telle activité. Mais à ce jour, malheureusement, on l'a appliqué sans les moyens. Donc, on a demandé aux gens, faites les LMD, alors que la réforme avait prévu, par exemple, la numérisation et n'a pas suivi. La réforme avait prévu, par exemple, les bourses de mobilité des étudiants. On n'a pas mis les moyens. Mais on a demandé aux gens de faire les LMD sans moyens. Et aujourd'hui, on veut évaluer une réforme à laquelle on n'a pas mis les moyens. Mais c'est un journaliste. C'est comme si un parent demandait aux enfants de poser des actes, mais n'a pas mis les moyens. Mais ça devient compliqué. Qu'est-ce que l'État veut évaluer lorsque l'État n'a pas mis les moyens pour opérationnaliser? C'est ça tout le problème.
D'accord. Professeur, un instant, oui, oui. On va accueillir les auditeurs. Thomas nous appelle de Bounia et Safari depuis Gabarrière. Vous voulez également participer à cette émission? Nous faisons l'évaluation du système LMD. Quelles sont les forces et les faiblesses? Composez le 099-706-9941.
Connaissez-vous la monkeypox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de monkeypox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la monkeypox s'est fait à travers des lésions, voire plaies de liquide organique comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de monkeypox et le rapport sexuel avec une personne malade de monkeypox. Pour nous protéger contre la monkeypox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de monkeypox et éviter tout contact avec les objets souillés par des malades de monkeypox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151 ou adressez-vous directement à un prestateur de santé ou à un agent de santé communautaire.
Système LMD en République démocratique du Congo, quelles sont les forces et les faiblesses? Safari, vous êtes à Iga Barrière. Bonjour.
Bonjour également, monsieur l'invité. Oui, je pense que Il faudra peut-être faire en partie avec le système LMD, parce que non, alors on risque de rabaisser le niveau des étudiants déjà rabaissé. Oui, ce qui m'amène à poser une question à M. Levité, de savoir, je pense que M. Levité, si je ne me trompe pas, depuis la genèse de notre pays, je crois qu'il n'y avait pas ce système-là dans notre pays. Alors, comment peut-il que vous, en tant que les éminents professeurs, bien sûr, est-ce que vous allez réussir le système LMD et pourtant vous-même, vous n'aviez pas, donc vous n'étiez pas passé par ce système-là? C'est ça ce qui me préoccupe. Sinon, peut-être que M. Lévité pourra dire autre chose. Hein. Sinon, alors.
Merci. Merci bien, Safari. Thomas, vous êtes à Bounia. Voilà, il n'est pas là. On va le relancer plus tard. Professeur Michel Bissa, vous avez la parole.
Merci beaucoup à M. Safari et à tous les auditeurs de la radio Kapi à Bounia. Pour pouvoir réussir un système de formation, cela ne veut pas dire que nous-mêmes, on doit y étudier. Mais aussi, il faut noter que notre système a au moins, je peux dire, 3 catégories de professeurs. Nous avons des professeurs qui ont étudié dans le système occidental, dans l'Europe, États-Unis. Nous avons de plus en plus de profs qui ont étudié en Chine, au Moyen-Orient, en Asie. Et nous avons des professeurs formés localement en Afrique et chez nous-mêmes au Congo. Là, ce n'est pas un grand problème. Un professeur d'université a une grande capacité d'adaptabilité, de pouvoir comprendre les choses et les expliquer. Le problème qui se passe aujourd'hui chez nous, c'est le problème de la construction du système dans la durée. C'est l'État qui définit l'université et c'est l'État qui dit quel type d'homme il veut avoir. Mais malheureusement, l'État qui a voulu se lancer dans la réforme LMD, je l'ai dit que le LMD n'est qu'un des aspects de la réforme de l'ESU. Le LMD ne peut pas marcher si on n'est pas capable, par exemple, de valoriser l'équipement. Si on n'est pas capable de moderniser l'équipement, si on n'est pas capable de mettre en place les bourses pour les étudiants, pour la mobilité et tout, si on n'est pas capable de payer décemment les enseignants pour qu'ils soient capables de faire une formation personnalisable pour les étudiants. Le LMD ne peut pas marcher dans un environnement où il n'y a pas un dialogue entre les milieux de formation et les milieux de l'entreprise. Parce que les étudiants doivent passer beaucoup de temps dans les entreprises. Tous ces éléments-là demandent une grande implication de l'État. Mais malheureusement, et je vous ai dit que on n'a pas fini la construction du LMD parce que on a voulu isoler le LMD au lieu de le prendre dans la réforme globale définie à Lubumbashi. Je continue à vous dire que ce qui a été fait à Lubumbashi, c'est une des meilleures réformes que ce pays n'a pas eu depuis 1960. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de textes, mais nous avons besoin des hommes et des moyens. C'est ces deux éléments qui n'ont pas suivi. Alors, l'évaluation qu'on est en train de faire actuellement du LMD lui-même, là aussi, il y a un problème. D'abord, on le fait en ligne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens. L'État n'a même pas donné au ministère de l'ESU les moyens pour pouvoir faire la...
Allô?
Il a commencé par demander aux établissements de remplir un formulaire en ligne, ce qui a été fait. Ensuite, aujourd'hui, on a sélectionné un échantillon de quelques entreprises et universités et on les demande de faire des focus group. Pour les experts qui le savent, un focus group ne réunit qu'entre 6 à 12 personnes. Est-ce que vous trouvez normal qu'on aille pour parler du LMD qui concerne tous les pays, qu'on puisse sélectionner moins de 20 établissements et encore là-bas, ça sera des focus group? Mais pourquoi tout cela? C'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Pourquoi tout cela? Parce que les gens n'ont pas compris que ça doit se faire dans la continuité et qu'il y a déjà une institution chargée du suivi évaluation qui a travaillé pendant 2 ans gratuitement sans être payé, mais simplement pour suivre comment ça s'est fait. Et je vous ai dit tout à l'heure que dans cet établissement, vous avez des personnalités qui sont des personnages comme la belle Léona Santé dit de l'ICC, comme le professeur Antoine Chimpi qui était le... C'est des personnalités qui ont une expertise recherchée au niveau mondial, mais qui ne sont pas prises en compte actuellement dans notre pays, ni valorisées par rapport à cette question. Et ça, c'est dommage.
Bien, on va accueillir Paul Malala de Kinshasa. Nous parlons du système LMD. Quelles sont les forces et faiblesses? Paul Malala, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue aussi l'invité.
Bien, on vous écoute, Paul.
Mais moi, à mon humble avis, je suis en train de penser que parler du système LMD ici en République démocratique du Congo, c'est un morne. C'est un morne. En tout cas, notre pays, vu les conditions de notre pays, nous ne pouvons pas aujourd'hui parler du système LMD parce que il y a des universités aujourd'hui dans notre pays qui n'ont pas accès à la connexion Internet. Le professeur là est en train de parler qu'ils ont essayé de numériser ça. Vous numérisez et vous délimitez les systèmes LM2 parcours tout simplement les universités de la ville, situées dans certaines villes ou bien même dans des milieux ruraux. Je voudrais qu'ils répondent quand même à cette préoccupation. Parce qu'il y a des universités où un étudiant termine la licence, il ne sait même pas accéder à l'outil informatique. On peut placer un ordinateur devant lui, il ne saurait même pas comment allumer un ordinateur. Hein, monsieur le professeur, vous savez qu'il y a les zones 3, il y a les zones ici en République démocratique du Congo, où un étudiant termine sa licence, il ne touche même pas un téléphone Android ici, il ne sait même pas comment manipuler ça. Il n'y a même pas la connexion Wi-Fi, il n'y a pas la connexion Internet, ils sont coupés de toute connexion. Comment est-ce que le système LMD va s'y prendre dans des milieux ruraux? Eh, monsieur le professeur, non, mais moi, je suis en train de préconiser qu'on retourne, que le gouvernement congolais revienne aussi à l'ancien système. Aujourd'hui, il y a les étudiants qui finissent les études, mais qui ne sont pas en mesure de défendre ce qu'ils ont comme diplôme par rapport aux étudiants des anciens systèmes. Eh, monsieur le professeur,
bien.
Les conditions ici dans notre pays ne sont pas les mêmes avec le pays de l'Europe. En Europe, chaque étudiant, en commençant par l'école primaire, l'enfant a l'accès à des ouvrages, il a l'accès à l'Internet, il a l'outil Internet entre ses mains. Lui, il a les procès qui sont en train de parler. À l'entendre, est-ce que lui est le produit de LM2? Est-ce qu'il a été adapté pour commencer à donner cours dans des universités dans le nouveau système LMD que lui-même n'a pas appris, parce qu'il n'a pas été formé pendant la période de LMD, ici chez nous en République démocratique.
Bien, merci. 90%
des universités, les professeurs n'ont pas été formés pour commencer à donner cours dans le nouveau système LM2. Mais comment est-ce que vous venez à sorceller nos étudiants? Vous venez à sorceller nos enfants aujourd'hui? C'est de la sorcellerie, plus pire et simple. En tout cas, le ministre de l'Essure ne doit que revenir. Et je demande au Parlement de peser là-dessus pour que nous revenions
à l'ancien système.
À l'ancien système, étant entendu que nous avons des provinces où on ne connaît même pas les courants électriques ici.
Bien, merci.
Les panneaux solaires pour avoir de l'éclairage.
Merci, Paul. Merci, Paul Malala de Kinshasa, qui dit que c'est pour lui... le système LMD est un mort-né, il y a le problème de numérisation, il y a des étudiants en milieu ruraux qui ne peuvent même pas accéder à l'Internet, etc. Et il propose le retour à l'ancien système. Professeur Michel Bissin, vous avez la parole.
Merci beaucoup, je salue M. Paul Malala, merci pour ses observations. Mais d'abord, la première chose que je voudrais lui dire, c'est que le LMD créé au Congo est beaucoup plus proche du PADEM, c'est-à-dire notre pacte ancien, que du LMD de Bologne. Tel qu'on l'a réfléchi à Lubumbashi, il n'y a pas de grands écarts entre ce qu'on appelle aujourd'hui réforme LMD et l'ancien système. C'est presque la même chose, mais maintenant, est-ce que l'ancien système était si compétitif et tout? Là encore, il y avait des choses qu'on peut revenir. Alors, est-ce que les professeurs eux-mêmes étaient formés dans le système LMD? Je peux lui rassurer que beaucoup d'entre nous, moi par exemple particulièrement, je suis à 100% les produits du système éducatif congolais. Mais aujourd'hui, j'enseigne, y compris dans des pays qui appliquent le LMD pendant longtemps, et je peux vous assurer que nous ne sommes pas si médiocres que ça. Donc, et même nos étudiants eux-mêmes. Alors, s'agissant des milieux ruraux et des milieux urbano-ruraux. Moi, j'ai l'avantage d'enseigner à la fois dans les milieux ruraux et urbains, mais aussi même à Kinshasa, je reçois des étudiants qui viennent des milieux ruraux. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de responsabilité, en termes de la capacité même de transformer notre société, le meilleur de mes étudiants, même à l'université de Kinshasa, bizarrement, ils viennent des milieux ruraux. On sent en eux une grande capacité de raisonnement, on sent en eux la possibilité de résoudre les problèmes réels qui se posent, contrairement à nos enfants qui naissent dans les villes, qui grandissent et qui sont beaucoup plus dans des livres et dans la théorie. Et si on voulait aller vers le LMD, c'était justement pour créer une université de la société, dans la société et pour la société. Ça ne sert à rien d'avoir la grande capacité de réciter tous les philosophes du monde entier si nous sommes incapables d'éradiquer la malaria, si nous sommes incapables de pêcher, de produire les poissons. C'est-à-dire, de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Ça a été un de nos objectifs à Lubumbashi. Mais maintenant, par rapport aux institutions non viables, la réforme à Lubumbashi avait demandé de fermer plusieurs institutions, notamment des facultés de médecine non viables. Vous vous souviendrez que dès qu'on a fini Lubumbashi, le ministre Moïse Dozang avait fermé plusieurs facultés non viables et plusieurs universités non viables. Beaucoup de ces universités sont dans les provinces de l'Est du pays, Sud et Nord Kivu, où chaque député national a créé une institution d'enseignement supérieur dans son village pour des raisons essentiellement politiques. Les résolutions des États généraux avaient demandé de fermer toutes ces boutiques qui n'ont aucun professeur, aucune bibliothèque, aucun laboratoire. On avait des facultés de médecine où quelqu'un finissait la médecine sans avoir eu l'occasion d'entrer dans un laboratoire. Malheureusement, ce qu'on devrait évaluer aujourd'hui, c'était ça. De se poser la question, pourquoi des facultés non viables ont été ouvertes alors qu'elles n'ont pas fait un pas, un saut qualitatif? Pourquoi est-ce qu'on a laissé des établissements qui n'ont aucun professeur continuer à fonctionner? Alors, on a un souci au pays, et ça aussi le LMD devrait le résoudre. La LDC a aujourd'hui moins de 5000 docteurs à thèse, dont les gens qui ont fini les études. Si vous prenez un pays comme le Sénégal, un tout petit pays, c'est plus de 500 000 docteurs à thèse. Mais quand nous sommes encore à moins de 5000, c'est une pathologie. Mais pourquoi ça? On a laissé nos enfants inutilement pendant très longtemps l'université. Le prof Emile Bongeli disait des universités qui fabriquent des cerveaux inutiles. Il nous faut alors conduire nos enfants le plus rapidement vers des doctorats. Il nous faut, ça ne sert à rien de garder un enfant qui veut faire la médecine aujourd'hui chez nous. C'est plus de 10 ans à l'université pour sortir généraliste. Et quand il veut faire la spécialisation, ils en sont au-delà de 40 ans. Vous connaissez l'espérance de vie dans notre pays. Mais pour si on ferme ces universités, qu'est-ce qu'il fallait faire? La résolution a demandé d'encourager l'orientation des enfants vers des filières techniques. Il ne faut plus avoir toutes les humanités. Venez dans les facultés de droit, de sciences politiques, où on a énormément d'étudiants. Plus on a des juristes qui deviennent nombreux, plus notre justice est malade. Plus on a des politologues en masse, plus la société politique est malade. Ainsi de suite. Donc, il fallait qu'on ait des ajusteurs, oui, des soudeurs et tout. Mais le problème est vaste. Pourquoi vaste? Parce qu'au niveau politique, on a fait en sorte qu'au Congo, il n'y a que les députés et les politiciens qui peuvent s'enrichir. Le médecin ne peut plus vivre de la médecine. Le professeur ne peut pas vivre de son travail d'enseignant.
Professeur Michel Bissa.
Tout le monde veut devenir député.
Oui, professeur Michel Bissa.
Le LMD.
Oui.
Oui, oui.
Voilà. Est-ce que le LMD est venu résoudre le problème ou bien, bon, comme vous l'avez dit, les moyens n'ont pas suivi et on n'a pas eu les résultats escomptés?
La réforme adoptée à Lubumbashi reste la solution qu'il faut pour notre système éducatif et même notre système industriel. Mais cette réforme n'a jamais été appliquée. Ce qui a été appliqué, ce n'est pas le LMD parce que on a appliqué ça comme dans la forêt, parce qu'il n'y a pas eu de moyens. L'État n'a jamais mis les moyens pour qu'on applique la réforme et décider à Lubumbashi.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ces... Professeur, faut-il revenir à l'ancien système comme l'a proposé Paul Malala ou que l'État mette des moyens pour améliorer les choses?
Il faut que l'État mette les moyens pour améliorer, pour appliquer la réforme adoptée à Lubumbashi qui n'est pas encore appliquée. Ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est même pas les LMD. Nous continuons à fonctionner dans notre ancien système. On enseigne de la même manière. Les étudiants sont évalués, mais maintenant avec un désordre indescriptible. Je vous ai dit que même les grilles de délibération, telles qu'elles se présentent, ce n'est plus de manière uniforme. Je vous ai dit que même le contenu des enseignements Dès que diffère. Ça se donne aujourd'hui, ce n'est plus le même contenu. Donc, nous avons reculé, mais avec l'ancien système, que l'État mette les moyens et que l'État mette en place ce mécanisme de suivi pour opérationnaliser les états généraux. La réforme est dans son ensemble, pas seulement les LMD.
Bien. Paul Malala, vous êtes encore en ligne à Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus? Allô, Paul? Paul Malala, vous êtes là?
Later.
Voilà, Paul n'est plus là. Nous parlons du système LMD, quelles sont les forces et les faiblesses. Voilà, l'invité, le professeur Michel Bissa-Kiboul, qui est membre de l'équipe de coordination des états généraux de l'enseignement supérieur de 2021, nous dit que ce qui est appliqué aujourd'hui, c'est pas ça qui était prévu. Paul, vous êtes là. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, monsieur le journaliste, je reviens encore, parce que le professeur n'a pas répondu à la question.
Laquelle?
Il vient de nous dire là que le système LM2 est basé tout d'abord sur la numérisation. Parce que comment est-ce qu'ils vont numériser, c'est ça ma question, comment est-ce qu'ils vont numériser le système LM2 dans une université qui se trouve dans la province de Lomami, par exemple, au niveau de Kabinda, en Pengue, là-bas, un milieu rural où le courant électrique n'existe pas. L'outil informatique n'existe pas. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas une connexion Internet,
Paul,
ni Wi-Fi, ni quoi.
Paul,
il précise quand
Paul,
même.
Le professeur,
il est en train de dévier,
Paul,
il a répondu, mais il est en train de
Paul,
dévier
professeur,
la question. Il explique seulement. Oui.
Professeur Michel a expliqué tout à l'heure le ministre Moïse Dzangi avait fermé beaucoup d'établissements non viables qui n'avaient rien, presque rien, comme vous le dites là.
Vous savez.
Voilà, je sais
non,
pas.
Non, vous savez, encore, monsieur Moïse Dzangi, je le respecte beaucoup. C'est celui qui est venu tuer le système éducatif au niveau des enseignements supérieurs universitaires. Vous savez la conséquence. Il y a des parents qui en souffrent aujourd'hui parce qu'il a supprimé. On prend par exemple la faculté de médecine dans des milieux ruraux là-bas. Il supprime cette faculté, mais il ne prend pas de dispositions pour que ces étudiants qui quittent leur province d'origine, qui vont étudier dans d'autres, qui vont continuer avec les études dans d'autres provinces, et quels sont leurs modes de vie là où ils vont? Il faut louer les maisons, il faut étudier, ils sont chez autrui, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de home, et là-bas, nous en souffrons. Il y a les parents qui sont en train d'en souffrir. Et Moïse Dzangi qui prend une mesure, 100 mètres de garde-fou. Mais je voudrais que le Parlement revienne encore. Mais si Moïse était encore au niveau de l'ESUR, j'allais demander au Parlement de l'interpeller aujourd'hui. Parce qu'il y a des enfants, des étudiants qui sont en train de mourir aujourd'hui.
Bien. Merci Paul Malala.
Il passe les villages, il y a des étudiants qui sont en train de mourir, qui sont en dehors de leur province d'origine, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas les maisons d'habitation. Ils n'ont pas la nourriture. Il va aller à l'université. Il leur revient. Il n'a pas la nourriture. Il dort en dessous de manguier. Est-ce que ça un ministre responsable?
Mais est-ce que c'est ça le
ce système LM2 est venu tuer.
D'accord. Merci Paul.
Notre enseignement supérieur universitaire.
Merci Paul pour votre intervention, professeur Michel Bissa.
J'ai dit tout à l'heure peut-être que M. Paul ne m'a pas suivi. Que le système qui a été créé à Lubumbashi n'est pas le LMD de Bologne. On a créé un système qui est plus proche de notre ancien système qu'on appelait PADEM. Conséquence, notre LMD n'exige pas nécessairement la numérisation partout. C'est un système congolisé qui a tenu compte des contextes de nos milieux ruraux, de nos milieux urbains, de notre précarité. Donc, on peut bien faire fonctionner un établissement, une institution, même là où il n'y a pas l'énergie électrique. Mais il faut maintenant savoir quelle est la filière que vous voulez créer dans tel contexte ou dans tel autre. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait une cartographie qui avait demandé de fermer un certain nombre d'établissements non viables. Et ces étudiants devraient être orientés ailleurs. Il a donné l'exemple des facultés de médecine. Non. Le ministre Moïndo a bien fait fermer des établissements après un travail technique qui avait impliqué aussi le conseil de l'ordre des médecins. Et partout où on a fermé des facultés, on a indiqué quelle autre université pouvait prendre en charge ses étudiants. Dans les Olomami, je pense qu'il devrait aller soit à l'INILU, si pas l'INILU, ça doit être l'Université du Kasaï. Mais maintenant, le problème qu'il pose de moyens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'État n'a pas mis en place les moyens, les budgets conséquents pour pouvoir appliquer la réforme. Le LMD n'est qu'un des aspects, une des dispositions. Si les 229 résolutions, le LMD n'est qu'une de ces résolutions. Pourquoi nous passons l'État à évaluer une résolution sans regarder 228 autres résolutions, alors que toutes les résolutions se tiennent et se soutiennent?
Bien.
Tant qu'il n'y aura pas de moyens, tant qu'il n'y aura pas une formation, tant qu'il n'y aura pas l'équipement, qu'on soit dans le LMD ou dans le PADEM ou dans n'importe quel autre système, nous ne produirons pas la qualité. La qualité marche avec les moyens, avec la responsabilité, avec la sanction.
Bien. Voilà. On va accueillir le professeur Antoine Chimpi. Professeur, bonjour.
Oh, bonjour, bonjour Jordi, bonjour professeur Bissa. Je suis cueilli comme ça en froid, je sors du bloc opératoire.
Okay.
Et je suis ravi de suivre cet échange. Je viens de suivre quelques extraits, c'est simplement magnifique.
Oui.
Qu'on donne des explications qu'il faut à notre population pour qu'on comprenne bien le sens des réformes de ce qu'on propose.
Professeur,
voilà, ravi d'être avec vous.
Merci.
Je vous écoute.
Merci professeur Antoine Chimpi, vous êtes le coordonnateur de la commission d'évaluation du système LMD. Alors dites-nous aujourd'hui, quelles sont les forces et les faiblesses de ces systèmes, professeur?
Alors, je ne suis pas le président de la commission d'évaluation. Moi, j'étais coordonnateur des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Et donc, pendant ces états généraux, parmi les résolutions qui avaient été adoptées, il y avait notamment celle-ci qui parlait du LMD. Et donc il a été mis en place, vous savez, récemment, demandé par le chef de l'État, une évaluation à mi-parcours, parce que de Lubumbashi, lorsque nous avions plus pris ces résolutions, il était prévu des phases d'évaluation pour voir, nous avons proposé telle réforme, telle mesure, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que ça a donné comme résultat. C'était prévu à 5 ans. Et ces mesures ont commencé à être appliquées début 2022, donc voilà, en janvier. Ça veut dire, là, nous sommes octobre 2024, nous sommes à mi-parcours, un peu plus que 2 ans. Donc, on est d'une façon un peu prématurée dans l'évaluation de cette réforme-là. Mais j'ai tendance à entendre, je suis content de l'explication qui vient d'être donnée tout à l'heure, juste avant que je prenne l'antenne. Mais est-ce que les gens se demandent pourquoi on en est arrivé à parler du LMD? Il faut pas qu'on donne l'impression que avant le LMD, tout allait bien et qu'il n'y avait pas de problème. C'est justement l'inverse. C'est parce que il y avait des problèmes qu'il fallait que nous révisitions notre système éducatif chez nous, dans notre pays, dans nos conditions, avec le moyen que nous avons. Savez-vous que Jordi, jusqu'avant de cette réforme de 2021, nos diplômes, on ne savait plus trop comment le valoriser ou les comparer aux autres diplômes. Parce que notre système, je vais dire simplement, avec tout le respect, était devenu flou. Quand quelqu'un débarquait avec un diplôme d'ingénieur, je ne sais pas dans quel domaine, dans un pays X ou Y, on savait pas trop quelle est l'équivalence qu'on pouvait lui donner. Et y compris chez nous, on a passé des années à dire, probablement vous-même, à se rendre compte qu'il y a un problème de niveau petit à petit qui décline avec des années. Donc nous n'avions plus un curseur de comparaison pour évaluer la qualité de notre système éducatif, qui a fait ses preuves par le passé. Mais nous sommes obligés de réajuster au fur et à mesure. Le LMD, cette réforme-là, avait en particulier 2 questions auxquelles il devait répondre, ou alors des problèmes qu'il devait résoudre: permettre que notre diplôme, nos diplômes, aient une visibilité telle qu'on puisse le comparer ou permettre de faire les équivalences avec d'autres. En termes simples, quand on dit que un tel est licencié en droit, par exemple, ancien système, on sait automatiquement qu'est-ce qu'il a eu comme formation. combien de temps il a été formé, qu'est-ce qu'il a eu comme séance pratique. Vous voyez, ça donne l'expertise, ça donne le tracé clair de la formation de tel diplôme. C'était devenu flou. Il y a 10, 15, 20 ans, quand un docteur, un médecin congolais débarquait dans un pays XY, et pas seulement en Europe, même en Afrique, on savait qu'il était de niveau de docteur en médecine. Nos diplômes étaient reconnus. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous savez que quand un docteur de médecine débarque dans beaucoup de pays au monde actuellement, il n'est même pas considéré comme un infirmier. Son diplôme n'a pas cette équivalence. Pourquoi ? Parce que notre système éducatif était devenu flou. C'est-à-dire, nous sommes en train de vouloir jouer dans un championnat mondial de football, par exemple, où il y a des règles établies. Nous, nous voulons jouer dans ce championnat, mais nous ne voulons pas nous mettre au règlement de ces championnats. Donc, on nous met à l'écart. Or, les trois quarts du système éducatif du monde étaient organisés dans ce sens-là. Nous, on restait dehors et c'était préjudiciable pour nous. Donc, trouver les équivalences de nos diplômes. La deuxième chose, quand le professeur Bissa ou le docteur X ou le licencié grec ou quelqu'un qui a un tel master dit qu'il veut partir du Congo, par exemple au Cameroun ou au Sénégal ou l'inverse, il suffit qu'ils disent « moi, je suis à tel niveau ». On sait automatiquement, donc ça facilite sa mobilité, on sait ce qu'il a déjà eu comme formation, et s'il vient pour une expertise, on sait qu'est-ce qu'il faut lui compléter. Notre système avait perdu ces deux points majeurs dans un système éducatif. Et donc les experts qui étaient là, à Lubumbashi, 500 experts venus des quatre coins du pays, et avant qu'ils aillent à Lubumbashi, il y a eu des contacts à travers toutes les provinces. Donc, pour une fois, nous sommes arrivés à prendre des réformes qui a été vraiment inclusive, qui a intégré les parents, les associations des parents, les enseignants, les élèves, les étudiants, le monde de l'entreprise, les anciens de l'université, et on est monté jusqu'en haut pour trouver ces réformes.
Professeur Antoine Chimpi, aujourd'hui, si on fait une évaluation à mi-parcours, quelles sont les forces et les faiblesses du système LMD actuellement?
Alors, le grand problème, ça venait d'être décrit tout à l'heure. On a pris des réformes, on a proposé des réformes qui sont passées en conseil de ministres, qui a été acté, et en parallèle de ça, il y avait, entre autres, des moyens à mettre en place. Il y avait même un programme, un rétro-planning qui a été fait. Il y avait des séances prévues, par exemple, pour la formation, ça partait d'en haut. On disait la primature, voilà ce qui revient à la primature de faire pour que cette réforme réussisse. Au niveau du ministère des tutelles, voilà le point qui était à faire. Vous avez ça, c'est le rapport des états généraux l'enseignement supérieur universitaire 2021. Vous pouvez le trouver sur Internet. Vous tapez simplement états généraux de l'ESU 2021, rapport, tout le monde peut le trouver. Il va voir qu'est-ce qu'on avait prévu qui était destiné au ministre des tutelles, qu'est-ce qui était destiné aux organisations, au conseil d'administration des universités, qu'est-ce qui avait été destiné aux enseignants des universités, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour vraiment s'arrimer à cette réforme, que devaient faire les étudiants, que devait-on faire au niveau des établissements, tout est détaillé. Donc si on veut le faire évaluer à mi-parcours, mais on sort ces mesures. Il y en a 52 de mémoire. 52. On fait point par point. Est-ce que ça a été rempli? Eh bien, vous allez vous rendre compte, Jordi, pour répondre à cette question, hélas, les moyens qui devaient être mis en parallèle pour la réussite de cette réforme, ce n'est pas le seul problème. N'ont pas été remplis. N'ont pas, en tout cas, été remplis, n'ont pas été déclinés à tous les niveaux. Donc, on ne doit pas s'étonner. Si on a pris des réformes, qu'on a décidé tous ensemble les moyens à mettre en place et que les moyens n'ont pas été mis en place, il ne faut pas s'étonner que la réforme ne donne pas les résultats attendus à mi-parcours.
Oui, et ce qui est appliqué actuellement n'est pas du tout le système LMD prévu, mais c'est autre chose.
Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça parce que dans la planification qui était faite, on a opté pour cette réforme. Et on avait mis un programme de septembre 2021 à décembre 2021. Donc, on a mis tout un calendrier progressif pour dire qu'est-ce qu'on devait faire à chaque étape. C'est un système LMD. Il y a un système mondial, mais qui a été adapté à notre pays. Chaque pays s'approprie de ses particularités. Mmh. C'est ce qu'on appelle contextualiser. Donc, chez nous, il y a des priorités éducatives qui ne sont pas forcément le même qu'ailleurs. On l'a adapté, intégré ici. Quand je dis « on », c'est au moins, j'ai dit, les experts que compte ce pays.
Oui.
C'est un travail inclusif. Donc, aujourd'hui, refaire l'histoire de l'ESU, des États généraux, c'est vraiment une perte de temps. Parce que le pays a mis le paquet pour que ça soit fait. Mmh. Maintenant, pourquoi les résolutions n'ont pas été appliquées? Je crois que c'est là qu'on doit se focaliser et on va se rendre compte très vite des failles, des choses que nous devrions corriger maintenant, parce que nous n'avons pas d'issue.
Quoi
d'autre à faire que de forcer dans cette réforme?
D'accord.
Voilà.
D'accord. Professeur Antoine Chimpi, président du comité d'organisation des États généraux de l'ESU en 2021. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Excellente journée et à la prochaine.
Merci. Merci beaucoup à vous demain. Merci beaucoup.
Bien. On va conclure aussi avec professeur Michel Bissat. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient, professeur?
Je pense que l'essentiel a été dit par le professeur Antoine Chimpi.
Oui.
Le LMD, tel qu'adopté à Lubumbashi, reste la solution qu'il faut pour ce pays. Mais pas seulement le LMD, il faut voir la réforme dans sa globalité, l'ensemble des résolutions. Il faut que chaque partie prenante puisse s'y engager et il faut que l'État y mette les moyens nécessaires pour que nous puissions y aller. Et je dis que s'il faut évaluer, ça doit se faire dans un processus cumulatif et non pas avec des ruptures. Moïse Dozang est encore vivant, c'est devenu une personne qui a quand même joué un rôle. Et donc, quoi de plus normal qu'il soit même au gouvernement, que son successeur, de temps en temps, se réfère aussi à lui. Je dis qu'il y a toute une institution, mécanisme national de suivi, évaluation des résolutions des États généraux de l'ESU. On devrait redynamiser une telle structure au lieu de les mettre à l'écart dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais aussi, au-delà de tout cela, moi, je ne suis pas d'accord qu'on soit en train d'isoler les LMD comme si à Lubumbashi, il n'y avait que les États généraux des LMD. Il faut qu'on poursuive la construction de Kirikula pour donner le contenu minimum de chaque matière. Comme ça, un prof qui enseigne à Lubumbashi, il enseigne le même cours que celui qui est à Mwanda, qui est en Bandaka, ainsi de suite.
D'accord. Là, professeur. Professeur Michel Bissat Kiboul, membre de l'équipe de coordination des États généraux de l'enseignement supérieur universitaire. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup. À la prochaine.
Bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Restez branchés sur la fréquence de la paix. Et à très bientôt.